Bonjour, ici Marc, bienvenue à l'épisode 82 du bonheurpourtous.info, le podcast où je partage avec vous les meilleures informations que je trouve pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, la suite de la troisième partie du livre de Lark & Rose, La superstition la plus dangereuse, commencée à l'épisode 50. Au passage, puisqu'il y a encore pas mal d'épisodes avec ce livre et que je pense que c'est important aussi, je voudrais aborder rapidement la santé et la nutrition avant de revenir dessus dans des épisodes futurs. Pour ça, je vous recommande les vidéos des docteurs Jason Fung, Sten Ekberg et Ken Berry. Il y a des liens sur le site du podcast. En gros, ce qu'ils disent, c'est de ne manger que des aliments naturels, donc non transformés, que des choses qu'on pouvait trouver avant l'industrialisation. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger du chocolat, un peu du noir et à au moins 85%, mais que ce n'est pas la base de notre alimentation. Évitez le sucre sous toutes ses formes, car dès que le sucre dans le sang dépasse 1 gramme par litre, c'est toxique. C'est la cause principale de tous les problèmes cardiovasculaires, ainsi que de la majorité des autres problèmes de santé les plus répandus. L'autre cause principale, c'est l'exposition aux produits chimiques en tout genre, comme les pesticides et les médicaments, produits par les mêmes grands groupes qui ne nous veulent pas du bien, les cosmétiques et savons et dentifrices et crèmes solaires. Le sel, lui, est bon pour la santé, pas la peine de se limiter. La viande rouge aussi, comme les abats et les œufs et le poisson. Le gras est bon également, mais le gras venant d'animaux sauvages, comme les saumons ou sardines, ou bien des vaches qui mangent de l'herbe et pas du maïs, ou bien de l'huile d'olive première pression à froid, ou de noix de coco, ou de palme, mais pas les corps gras obtenus avec des hautes pressions ou des produits chimiques. Donc évitez l'huile de tournesol, colza, arachide, etc., car les molécules ont été endommagées par les traitements industriels subis. Évitez aussi le soja, ce n'est pas pour rien que les gens qui le mangent traditionnellement le font fermenter. Une fois fermenté, s'il n'est pas transgénique et pas contaminé par des produits chimiques, pas de problème pour la majorité des gens. Pareil pour le blé, les variétés traditionnelles utilisées dans de la pâte qui a levé, ça passe tant qu'on n'arrive pas au 1 g de sucre par litre de sang. Mais le blé moderne est à éviter, vous pouvez voir les vidéos de Jason Fung, Sten Ekberg et Ken Berry pour les détails. Tous les trois parlent aussi des bienfaits du jeûne. On n'est pas adapté à manger tous les jours, ni plusieurs fois par jour. C'est quand on n'a pas mangé depuis 2 ou 3 jours que le corps a enfin l'occasion de recycler des structures qui n'ont pas servi récemment pour utiliser les éléments contenus afin de construire ou réparer les parties du corps qui sont le plus sollicitées. Ça s'appelle l'autophagie et ça permet de rajeunir. Bien sûr, pas d'alcool ni de tabac si on veut être en bonne santé. Éventuellement, un verre de vin par jour, si vraiment vous aimez ça. Et boire suffisamment d'eau, sans pesticides ni autres polluants, et dormir suffisamment. Et de l'exercice physique, non pas pour brûler des graisses parce que l'effet est presque négligeable, mais parce que notre corps a besoin de mouvement pour rester en bonne santé. Et pareil pour le bon fonctionnement du cerveau, intellectuellement et émotionnellement. Des sprints de 10-15 secondes à fond, plutôt que des footings d'une heure. Nager, faire des sports d'équipe. Personnellement, je fais tout ça depuis plusieurs années et je suis ravi de la santé et de la forme physique que j'ai. Je suis pratiquement au même niveau de performance que quand j'avais 20 ans de moins, alors que j'étais déjà bien sportif. Et d'apparence, on me donne 10-15 ans de moins. À 40 ans, alors que je suivais les conseils de nutrition des médecins de l'INSEP, parce que je pensais qu'ils savaient de quoi ils parlaient, j'ai commencé à prendre du poids, à avoir besoin de lunettes et à perdre en vitesse et en endurance. J'étais résigné, pensant que c'est normal, c'est l'âge. Puis, je suis tombé sur ces informations, j'ai éliminé le sucre et rapidement, je n'avais plus besoin de lunettes, j'étais revenu à une taille mince et j'avais à nouveau plein d'énergie et d'endurance. Comme quoi ce n'était pas l'âge, c'était des erreurs en alimentation. Et maintenant le chapitre d'aujourd'hui du livre « La superstition la plus dangereuse ». Prestation forcée. Les étatistes défendent souvent la taxation en affirmant que la confiscation forcée de la richesse par le gouvernement devient rétroactivement justifiée lorsqu'une partie de l'argent confisqué est dépensée d'une manière qui profite à la personne à qui l'argent a été pris, ou du moins qui profite à la société en général. Par exemple, un étatiste peut affirmer que si quelqu'un conduit sur une route qui a été financée en partie par l'argent prélevé sur cette personne, ou qui en bénéficie indirectement du fait que d'autres personnes peuvent utiliser la route, cette personne ne devrait pas se plaindre d'avoir été taxée pour financer cette route. Ignorant la véritable nature de la situation, les étatistes considèrent à tort qu'il s'agit simplement de payer pour des services. Personne n'avancerait un argument similaire lorsque l'autorité n'est pas impliquée. Supposons par exemple qu'un restaurant livre un repas à une personne qui ne l'a pas commandé et qu'il envoie ensuite des voyous armés pour lui réclamer 100$. Si la personne, après avoir été extorquée de cette manière, choisit de manger le repas, aucune personne rationnelle ne soutiendra que cela rend les actions du restaurant moralement acceptables. Pourtant, c'est exactement la même chose que le point de vue habituel des étatistes. Si quelqu'un bénéficie des services du gouvernement, il ne devrait pas se plaindre des impôts. Le postulat non formulé est que le vol légal est parfaitement légitime, pour autant que l'autorité fournisse ensuite un avantage à la personne volée. Pour les étatistes, il importe peu que cet avantage soit indirect, qu'il soit extrêmement coûteux ou qu'il soit associé à toutes sortes d'autres choses qui ne profitent pas du tout à la personne ou auxquelles elle s'oppose moralement, par exemple le financement de la guerre, de l'avortement ou d'un programme religieux ou antireligieux. En effet, les étatistes pensent qu'en fin de compte, c'est la prérogative de ceux qui détiennent l'autorité et non de ceux qui ont gagné l'argent de décider comment cet argent doit être dépensé, et que, tant que la classe dirigeante désire contraindre et voler le peuple pour son propre bien, les esclaves n'ont pas le droit de résister à la coercition et à la violence que les maîtres jugent nécessaires. Protéger en faisant violence. Une ramification de la notion selon laquelle le fait que le gouvernement fournisse des avantages justifie rétroactivement toutes sortes de vols et d'extorsions est l'argument manifestement ridicule selon lequel il est nécessaire que le peuple soit contraint et volé pour que le gouvernement puisse le protéger contre les mauvaises personnes qui autrement pourraient le contraindre et le voler. Cette rationalisation absurde et tordue est assez courante, que la discussion porte sur une armée autoritaire ou bien sur l'application de la loi au niveau national. Les étatistes s'appuient sur l'alarmisme pour soutenir cette folie, en faisant des prédictions terribles sur toutes les choses désagréables qui, selon eux, se produiraient si les gens n'étaient pas volés par le biais d'un racket massif d'extorsion autoritaire. Encore une fois, ces arguments stupides ne sont jamais avancés dans des situations où l'autorité n'est pas impliquée. Personne n'accepterait de dire qu'il est normal qu'un restaurant oblige quelqu'un à payer des plats qu'il n'a pas commandés, sous prétexte que cette personne pourrait mourir de faim. Personne n'accepterait de dire qu'il est normal qu'un constructeur de maison oblige quelqu'un à payer un bâtiment qu'il n'a pas commandé, sous prétexte que cette personne pourrait se retrouver sans abri. Mais il serait encore plus ridicule de prétendre qu'il est normal qu'un gang de rue se livre à un racket de protection afin d'avoir les ressources nécessaires pour empêcher tous les autres gangs de rue dangereux d'entrer dans leur ville, alors que c'est exactement la justification que l'on tente de donner à tout gouvernement. Les partisans d'une police forte ou d'une armée puissante, toutes deux financées par la confiscation forcée des richesses, ont accepté la prémisse selon laquelle il est non seulement acceptable, mais nécessaire que les gens soient opprimés, contrôlés et extorqués par le gouvernement, tant que cela est fait pour leur propre bien. Le fait que les protecteurs autoritaires ne parviennent pas à prévenir la criminalité ou la guerre et qu'au contraire, ils les augmentent considérablement par le biais de la guerre et de la création de marchés illégaux, semble passer inaperçu aux yeux de ceux qui prônent la défense par le biais du gouvernement. Encore une fois, c'est uniquement parce que l'on imagine que l'autorité a le droit de commettre des agressions que quelqu'un pourrait avancer l'argument absurde selon lequel il est approprié d'initier la violence contre les gens afin de les protéger. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Si vous aussi, vous voulez que ce dont on parle ici arrive aux oreilles de plus de monde, parlez-en autour de vous, faites-les heureux. Et laissez un commentaire sur iTunes, s'il vous plaît. Ça aide les gens à trouver ces informations plus facilement. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. À l'épisode prochain, avec la suite de la troisième partie de « La superstition la plus dangereuse », en cas de doute, prêchez la violence.